Bon matin tout le monde, est-ce que ça va bien?
Ouais.
Yes, j'aime entendre ça. Ce matin, j'avais à cœur de continuer le message que j'avais fait il y a 2 semaines et d'en faire une deuxième partie. Alors je sais que généralement les deuxièmes parties, on n'aime pas trop ça, les films, généralement les deuxièmes parties sont moins bonnes que les premières, mais je vais essayer de faire aussi mieux, voire même mieux, ok? La dernière fois, on avait vu ensemble qu'on était appelés à faire la différence. On était appelé à faire la différence autour de nous, par notre attention envers ceux qui souffrent. De faire la différence aussi par notre courage de tout faire pour partager la bonne nouvelle de l'Évangile. Mais aussi, on était appelé à faire la différence par notre foi. Et toute cette première partie était basée sur le fait que nous étions appelés, nous devions être des témoins de la bonne nouvelle de Jésus, des témoins de ce que Jésus nous appelle à croire en la Bible, en la parole de Dieu. Et je crois fermement que si nous voulons vivre une année 2023 différente des autres années, on doit saisir cette vérité que nous sommes appelés à faire la différence autour de nous par notre témoignage. Mais si on veut vivre aussi une année 2023 différente, si on veut progresser dans notre foi, si on veut avancer aussi dans notre foi, dans notre marche chrétienne, dans notre maturité, si on veut voir aussi Dieu nous combler en 2023, cela passe aussi par la générosité. En fait, c'est Martin Luther, le grand réformateur, qui a dit ceci. Il y a 3 conversions nécessaires. La première conversion, c'est la conversion du cœur. C'est ce qu'on avait vu au début d'année avec « Sonde-moi, ô Dieu » et connais mon cœur. Il y a aussi la conversion de l'esprit, ce qu'on a vu la dernière fois avec le témoignage. On veut témoigner pour que les gens vivent une vraie conversion en esprit et en vérité. Et aussi la conversion de ce qu'il a appelé la bourse, ou autrement dit, le portefeuille ou le compte bancaire. Et je suis pleinement conscient qu'apporter un message sur la générosité, c'est pas le genre de message où j'ai beaucoup de « Amen, Alléluia hein, » le dimanche matin.
Amen.
Amen. J'en ai eu un amen ce matin à la première réunion, j'en ai un deuxième. Bon, on va dire que mon compte est fait. On n'aime pas trop ça, entendre parler sur la générosité. C'est jamais un message qui est très populaire. D'autant plus dans la situation économique dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Cette semaine est sorti un article sur l'anxiété financière des Québécois, par exemple. À cause de l'augmentation des coûts de la vie, à cause de l'augmentation du taux d'intérêt, de l'épicerie, l'article disait qu'un ménage sur deux, une personne sur deux, un ménage sur deux qui gagne moins de 40 000 dollars par année vivait de l'anxiété par rapport à leurs finances. Et c'est juste cette catégorie-là de personnes. L'article déclare que les principales craintes financières sont dans l'ordre de ne jamais avoir assez d'argent pour accéder à la propriété, de subir une grosse dépense imprévue, et de ne pas avoir assez d'argent de côté pour la retraite. Personnellement, ces 3 questions-là, je me les suis posées dans les 3 derniers mois. Je ne sais pas pour vous, je sens que je me fais juger un petit peu là en ce moment, vous me regardez comme ça, qu'est-ce que j'ai dit, pasteur ? Mais ces questions-là, je me les suis posées dernièrement. Et je ne pense pas être le seul. Mais maintenant, à la lumière de toute cette crise que l'on vit en ce moment, comment est-ce que je peux arriver ce matin avec un grand sourire et dire « Nous sommes appelés à faire la différence par notre générosité ?» Je suis sur la même planète que vous. Je sais le contexte dans lequel on se trouve en ce moment. Mais il faut savoir que dans un temps de crise comme celui-ci, la Bible a quelque chose à nous dire à propos de la générosité. Et on va prendre ensemble le livre de 2 Corinthiens. Et ici, 2 Corinthiens, c'est une lettre que l'apôtre Paul a écrite à l'église de Corinthe. Et avant 2 Corinthiens, c'était 1 Corinthien. Il fait 3 ans d'études pour comprendre ça. Et on suppose que l'apôtre Paul a écrit plus que 2 lettres, on suppose qu'il en a écrit peut-être que 4 à peu près à l'église de Corinthe, mais on n'en a que 2 qui nous ont été données dans la Bible. Et l'apôtre Paul écrit donc cette deuxième lettre à l'église de Corinthe ici. Et dans le passage qu'on va lire, Paul est en train d'encourager l'église de Corinthe à participer à une levée de fonds pour aider des personnes qui vivent en Judée. Parce que les personnes qui vivaient en Judée étaient frappées par la famine. Ils étaient frappées par des conditions économiques désastreuses. C'était vraiment difficile pour eux. Et pour que vous puissiez vous représenter un petit peu géographiquement, parce qu'il y en a qui sont visuels, géographiquement, je vous ai sorti une carte magnifique avec des références qui n'ont rien à voir avec le message de ce matin parce que je ne trouvais pas autre chose comme carte. Mais au moins, vous pouvez savoir où se trouve Corinthe et où se trouve Judée, la Judée à l'époque. Et donc, Paul fait le tour des églises pour lancer un appel à la générosité. Et on va s'arrêter sur plusieurs passages, chapitres 8 et 9 de 2 Corinthiens. Et je vous invite vraiment, chez vous, quand vous allez rentrer, à lire le chapitre 8 et 9 de 2 Corinthiens. Et je sais très bien que même si je le dis, il n'y a pas beaucoup qui vont le faire. Mais je dis quand même, lisez vraiment 2 Corinthiens 8 et 9, c'est une pépite pour comprendre la générosité. Et on va commencer au chapitre 8 et à partir du verset 1. Paul écrit, « Par ailleurs, frères et sœurs qui vivent à Corinthe, par ailleurs, frères et sœurs, nous vous faisons connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de la Macédoine. Au milieu même de la grande épreuve de leur souffrance, leur joie débordante et leur pauvreté profonde les ont conduits à faire preuve d'une très grande générosité. Je l'atteste, ils ont donné volontairement, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens, et c'est avec beaucoup d'insistance qu'ils nous ont demandé la grâce de prendre part à ce service en faveur des saints, autrement dit en faveur des gens qui vivent en Judée. Ils ont fait plus que nous espérions, car ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. » Quand on reprend la carte de tout à l'heure, les églises de Macédoine, c'était Thessalonique, c'était Philippe et Bérée. Bon, Bérée n'apparaît pas sur la carte à l'écran, mais c'était cette région-là, la région de Macédoine. Il faut savoir que non seulement on croit à ce que Paul dit au niveau de la pauvreté, mais les historiens prouvent que Paul avait raison. C'est une région extrêmement pauvre, une région qui était ravagée par les guerres. Ils se faisaient piller par l'Empire romain qui exerçait une domination constante sur eux. Les impôts, les taxes, les abus financiers, il y en avait constamment dans cette région de Macédoine. Et Paul dit qu'il vit malgré leur grande souffrance. Et quand Paul utilise le terme « souffrance » ici, il faut comprendre que ça vient d'un mot grec qui désigne littéralement la pression que l'on met lorsqu'on écrase des raisins. C'est ce que vivait la région de Macédoine. Ils vivaient une pression constante qui les écrasait constamment. En langage moderne, en mode 2023, on pourrait dire que la région de Macédoine sortait d'une situation de pandémie, que les taux d'intérêt explosaient. Le prix de la bouffe, c'était écœurant. Le lait, les œufs, les pâtes, tout explosait. La viande, c'était hors de prix. Aux informations, c'était sans cesse inflammation, récession, augmentation. Puis en plus de ça, pour couronner le tout, Netflix mettait des nouvelles règles pour le partage de comptes et continuait à augmenter leurs prix. Prions pour Netflix ce matin. Et malgré tout ça, ils ont donné selon leurs moyens, nous dit Paul. Et même plus que leurs moyens. Ils ont donné au-delà de leurs moyens, au-delà de ce qu'on peut considérer comme étant raisonnable. Ça ne vous fait pas trop d'effet, j'ai l'impression, ce que je dis. Si vous ne trouvez pas ça fou, déjà, dites-vous qu'en plus d'avoir donné au-delà de leurs moyens alors qu'ils vivaient quelque chose d'extrêmement compliqué, ils ont même supplié Paul de pouvoir donner. Ils l'ont supplié. Je n'ai jamais entendu un pasteur me dire un jour qu'une personne est venue la voir et lui a supplié « Je veux donner à l'église ». Il n'y a jamais une personne qui m'a appelé en pleine nuit en pleurs avec la bave, les larmes « Je veux donner à mon église ». La personne qui me réveille en pleine nuit en ce moment, c'est pas pour donner à l'église, c'est plus pour avoir à manger. Il n'y a jamais personne qui fait ça. Surtout pas une personne comme les Macédoniens, qui étaient pauvres, qui qui vivaient dans une situation économique désastreuse, eux, ils avaient une raison pour ne pas donner. Ils avaient une excuse pour ne pas donner. On leur aurait rien dit s'ils ne l'avaient pas donné. Même selon les commentaires que j'ai lus, on suppose que même Paul ne leur a même pas demandé de l'argent. Il a fait le tour des églises, mais il aurait laissé de côté cette région parce qu'il savait la situation économique qu'il vivait. Paul se disait, non, mais je ne peux pas leur demander. Ils vivent déjà la souffrance économique. Et malgré ça, ils ont donné au-delà de leurs moyens et ils ont supplié de pouvoir donner. En fait, ce que cette église nous enseigne, c'est que la générosité ne doit jamais dépendre de nos circonstances. Les Macédoniens n'avaient jamais la mentalité du « quand j'aurai plus, je donnerai ». Simplement parce qu'on n'en a jamais assez. On n'en a jamais assez. Regardez ce que Dieu dit en Agé 1, verset 6. « Vous semez beaucoup et vous récoltez peu. Vous mangez, mais vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes habillés et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui travaille tombe dans un sac percé. » Et la mentalité du sac percé, on est nombreux à l'avoir. C'est la mentalité du « j'ai un salaire, je le mets dans mon petit sac, puis il y a des dépenses qui sortent. Hein. » Voilà, c'est des dépenses normales, c'est des dépenses logiques. On a des dettes, on paye l'épicerie. Puis à la fin, c'est comme s'il y avait un trou dans le sac. Le sac est vide. Le sac n'est pas grand. J'ai plus rien à donner. J'ai pas assez pour pouvoir donner. On a tous cette mentalité-là. Même si on essaie de mettre de côté. Même si on essaie de vouloir mettre de côté, on finit comme le petit bébé qui pleure actuellement. On se dit, mince, j'ai pas assez. J'aimerais donner plus. Enfin, j'espère que vous priez comme ça. Le danger, c'est que si on se fixe uniquement sur ce qu'on a dans le sac, on limite Dieu. Si on se fixe et on se limite uniquement à ce panier qui a l'air d'être percé, on a du mal à croire en Dieu. On a du mal à croire en sa générosité pour nous, à son amour pour nous. On a du mal à croire ce principe qu'il veille sur nous. On a du mal à croire que Dieu est plus fidèle que n'importe quel dollar que tu peux gagner. Ta générosité ne doit pas dépendre de ton compte bancaire. Ta générosité ne doit jamais dépendre de la situation économique du pays. Ta générosité doit dépendre de ta connaissance de qui est Dieu, de son amour pour toi, de sa grâce pour toi, de sa fidélité pour toi. C'est pour ça que les Macédoniens ont donné. Et non seulement ils ont donné, mais en plus ils ont donné dans la joie. Ils savaient pourquoi ils donnaient. Je sais pourquoi je donne. Je sais pour qui je donne. Je sais que Dieu m'appelle à être généreux, alors je le donne, sans retenue. Et je sais en plus qu'ils peuvent prendre soin de moi. Les Macédoniens savaient très bien que leur finance leur était déjà donnée par Dieu. Et que Dieu était assez fidèle pour prendre soin d'eux. C'est pour ça qu'ils ont continuellement donné dans la joie. Et c'est pour ça que Paul appelle l'église de Corinthe à faire de même. En 2 Corinthiens 9, verset 7, qui est écrit « Que chacun donne. » Je vais passer à la suite. Hein. « Que chacun donne comme il l'a décidé, dans son cœur, sans regret ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec... » Ok, c'était un timide joie. Car Dieu aime celui qui donne avec... Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ce verset est important. Il est essentiel. Parce que personne ne peut vous obliger à donner. Je ne peux pas vous obliger à donner. Paul le conseille, Paul le recommande, mais il ne peut pas obliger. Je n'oblige personne ce matin. Et je sais que quand on parle de générosité, d'argent dans l'Église, il y a... Je sais qu'avec toute l'histoire qu'il y a eu au Québec, on a envie de prendre du recul, on a un manque de confiance envers nos églises. Et je ne suis pas un dictateur qui va vous obliger à devoir donner. Je ne suis pas un dictateur ce matin. Je suis un prédicateur et mon but, c'est de prêcher ce qu'enseigne la parole de Dieu. Je ne suis pas un dictateur. Si j'étais un dictateur, tout le monde serait là mercredi soir à la soirée de prière. Je ne peux obliger personne. Je n'arrive même pas à obliger ma fille à faire ses nuits, alors je ne peux clairement pas vous obliger à donner. Non seulement je n'oblige personne, mais aussi je ne veux culpabiliser personne. Ce n'est pas ça mon but. Mon but, c'est d'enseigner ce que la Bible nous enseigne sur la générosité, que chacun donne, la Bible nous dit, que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, avec joie. Car Dieu aime. C'est fou ça, car Dieu aime celui et celle qui donne avec joie. Donc n'attends pas d'avoir assez, parce que tu n'auras jamais assez pour commencer à être généreux. Les statistiques le prouvent. Si tu ne sais pas être généreux quand tout va mal, tu ne le sauras pas quand tout va bien. C'est pas moi qui le dis, c'est les statistiques, c'est les études sociologiques. Moi, personnellement, j'ai commencé à donner en étant étudiant, sans salaire et vivant chez mes grands-parents. Et mon seul salaire, c'était ma grand-mère qui me donnait tous les dimanches un billet. 20 euros, 30 euros, pas grand-chose. Mais j'ai commencé à me dire, OK, une fois par mois, ce qu'elle me donne, je vais le donner à l'église. Et clairement, c'était un montant ridicule, là. C'était pas énorme. Mais je savais que la générosité ne dépend pas des circonstances, elle dépend du cœur. La générosité doit être une habitude, la générosité doit être une identité. C'est une habitude à cultiver. Je le faisais avec joie, sans me comparer. Et j'ai appris à donner quand j'avais presque rien. Ce qui m'a permis de pouvoir donner davantage quand ça allait beaucoup mieux financièrement. Ce qui m'a permis aussi de pouvoir continuer à donner quand ça allait moins bien financièrement. Ce qui arrive. Mais j'ai continué à donner peu importe les saisons de ma vie parce que la générosité est une identité à laquelle Dieu nous appelle tous. Et si j'ai réussi à faire ce pas de foi-là, tout le monde peut le faire. Tu peux le faire. Je ne suis pas un surhomme. J'aime tellement parce que Dieu ne mesure pas ta générosité avec ce que tu donnes. Mais il mesure ta générosité avec ce que tu as maintenant. Et ce que tu en fais avec. Les Macédoniens ont donné selon leurs moyens et même plus encore. Ils ont fait comme ils pouvaient. Et ça ne devait peut-être pas être énorme là. Mais Dieu a aimé leur générosité. Ils sont allés au-delà de leurs moyens. Et vous savez pourquoi ils sont allés au-delà de leurs moyens? Parce que la Bible nous appelle, nous dit en Actes 20, verset 35, parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de joie quand je donne que quand je reçois. C'est pour ça que Paul nous dit, Dieu aime celui qui donne avec joie. Il y a toujours une joie qui est en rapport avec le don. Il y a toujours ce lien qui est là. Maintenant, il faut comprendre. Pourquoi est-ce qu'on parle de joie avec le fait de donner? Parce que moi, personnellement, quand je vais à l'épicerie et que je paye ma facture, je ne suis pas très heureux de donner. Ou alors quand je reçois les impôts, bon, je ne suis pas très heureux non plus de donner. Et pourquoi Paul ici nous parle de joie de donner? Ce n'est pas une joie fake, ce n'est pas une joie simulée. C'est une joie qui est profonde, qui est ancrée et à laquelle les Macédoniens ont goûté et à laquelle tu es appelé à goûter aussi. Et il y a plusieurs raisons à cette joie-là, j'en ai trouvé trois. Comme ça, vous savez qu'au troisième point, vous allez pouvoir dire « Amen, il a bientôt terminé ». Premièrement, pourquoi il y a de la joie à donner? Parce que la générosité, c'est un investissement. Regardez ce que Paul dit toujours à l'église de Corinthe, au chapitre 9, au verset 6. Dans le contexte de la générosité, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un fermier semer dans son champ. Mais je n'ai jamais vu, moi, un fermier prendre des petites graines et puis semer un tout petit peu. Et j'ai encore moins vu un fermier prendre des graines et puis les semer en pleurant. Mes économies. Non, le fermier est dans la joie. Il prend une bonne poignée et il sème parce qu'il sait que plus il va semer, plus ça va porter du fruit, plus il y aura de la récolte, plus sa récolte sera abondante. Laisse-moi te dire que ça va être la même chose spirituellement. Tout ce que tu places entre les mains de Dieu va porter du fruit. Comme cette image avec l'agriculture, plus tu vas semer, plus tu vas donner, plus la récolte sera grande, plus tu vas pouvoir récolter. Et maintenant, je ne te parle pas du fait de donner et puis pour que Dieu puisse te donner en retour. C'est pas la théologie du donne pour que Dieu puisse te rendre riche. Donne pour que Dieu puisse payer ton hypothèque. Donne pour que tu puisses avoir un petit siège bien confortable et minçant le dimanche matin quand tu vas à l'église. Donne pour avoir le pasteur de tes rêves. C'est... Le type de fruit que tu peux récolter ici, le type de fruit, ce n'est pas un fruit qui est vraiment sur l'argent. Peut-être que Dieu va donner de l'argent en retour. Mais voilà le type de fruit que Paul veut faire réaliser à l'église de Corinthe. Et on le trouve au verset 10. Que celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournisse et vous multiplie la semence et qu'il augmente les fruits de votre justice. Nous donnons parce que Dieu veut que nous ayons un bras de justice, un bras tendu vers ceux dans le besoin, un bras tendu de générosité vers ceux qui souffrent. Les Macédoniens ont donné dans la joie parce qu'ils savaient que leur don allait porter du fruit pour aider les gens qui vivaient en Judée. Ils savaient que les fruits de bénédiction, ils savaient qu'il allait y avoir des fruits de bénédiction après avoir donné leur offrande. Nous sommes appelés à la générosité, nous sommes appelés à donner dans la joie, car nous savons que ça va porter du fruit. Je ne sais pas si vous le savez dernièrement, Nouvelle Vie a envoyé une équipe de femmes partir en mission aux Philippines. Et cette équipe-là, une équipe de bénévoles majoritairement, est partie en mission aux Philippines. On a même une église, une femme de notre église, membre de notre église, qui s'appelle Maïté Rakoto Malala, si vous la connaissez, qui est partie en mission là-bas. Et ces femmes-là, bénévoles, ont sacrifié leurs vacances, ont sacrifié leur argent, parce qu'il faut payer le billet aussi, il faut payer la vie là-bas. Ils ont sacrifié leur temps pour partir en mission aux Philippines. Ces femmes-là sont parties annoncer le message de l'Évangile, encourager des églises, faire des distributions alimentaires dans des bidonvilles, aider des cliniques médicales, visiter des familles, prier pour des malades, prier pour des orphelins, entourer des gens dans le besoin. Dernièrement même, il y a une vidéo sur TikTok qui est sortie, parce que Nouvelle Vie sur TikTok, et puis en même temps, ça nous permet de suivre ce qu'elles font. Je me suis abonné à TikTok juste pour ça, personnellement. Après, j'abandonne TikTok, parce que je ne comprends pas comment ça marche. Mais juste pour ça, je veux suivre TikTok, parce que ça me permet de suivre un peu leur vie actuellement là-bas. Et dernièrement, elles sont allées dans un refuge pour les enfants qui étaient aux prises avec la prostitution. Et c'était émouvant parce qu'on voyait Lydie, que Nouvelle Vie, on la soutient. Et puis Lydie, elle était émue en disant, mais ces enfants-là, on leur redonne de l'amour. On leur redonne de l'espoir. On leur redonne des parents. Ces orphelins-là qui ont été brisés, on les reforme ensemble avec amour. Et c'était juste touchant de voir ça. Et j'aimerais juste vous faire réaliser une chose. C'est que tout ce qu'elles accomplissent aux Philippines, c'est le fruit de vos dons. C'est le fruit de ta générosité. Et moi, personnellement, je n'arrive pas à rester insensible quand je vois ces vidéos-là. On va en voir une dans quelques instants. Mais je n'arrive pas à rester insensible parce que je réalise que, à mon humble niveau, avec ce que je peux donner au maximum, ça participe pour ça. Le fruit de mon offrande, c'est pour ça. Ça participe, c'est une participation pour ça et ça me remplit de cette joie-là de donner. Une joie indescriptible. Tu peux lancer la vidéo, Luc. Ça me remplit juste d'une joie indescriptible de me dire que chaque dollar investi, chaque prière, chaque don, chaque sacrifice porte du fruit. Un fruit de justice, un fruit d'amour, un fruit d'espoir pour toutes ces personnes-là. Et il n'y a pas juste aux Philippines. On a vu tout à l'heure une vidéo pour Haïti. Et au-delà même des frontières, on cherche aussi à impacter, par exemple, aussi les communautés autochtones. On a souvent des équipes qui vont fréquemment apporter des cadeaux pour les enfants, apporter de la nourriture, faire des rénovations. On a même une personne qui est impliquée à NV Junior, Alexandre, qui part souvent en mission dans les communautés autochtones. Puis même, pour être plus proche, on a aussi Bouffe Partage. Des dizaines de milliers de dollars ont été investis dans la banque alimentaire qu'on soutient dernièrement parce qu'ils ont trouvé des nouveaux locaux et on a voulu les soutenir au maximum. C'est une banque alimentaire qu'on soutient, que Pasteur Daniel gère et qui fait un travail colossal, semaine après semaine, pour aider des familles dans le besoin à Châteauguay. Et ce Noël, ils ont apporté un magnifique panier de nourriture à près de 250 familles. 250 familles ont un panier de nourriture pour Noël extraordinaire. Il y a des dizaines d'enfants qui ont eu un cadeau pour Noël. Et durant la distribution, c'était juste émouvant. On voyait des gens qui étaient, on les voyait émus de reconnaissance, émus de joie, émus de ce qu'on leur offrait, l'amour qu'ils recevaient. Puis à un moment donné, il y a une femme qui s'est effondrée dans les bras de Ginette, je m'en souviens, elle s'est juste effondrée en pleurs pour tout ce qu'elle recevait. Et à la fin de, quand elle a fini de passer pour, à la fin de son passage, tous les bénévoles se sont regardés en disant, juste pour elle. Juste pour elle. Tout le travail, tout l'investissement, toute la générosité, toutes les prières, tout ce qu'on donne juste pour elle, ça a valu la peine. Juste pour elle. Notre générosité en vaut la peine. Les fruits de justice sont là. Et cette générosité-là va aussi pour nos églises, pour notre église, pour accueillir les enfants en bas dans les beaux locaux, pour l'équipement, pour l'entretien du bâtiment, pour qu'on puisse être fiers d'inviter des gens dans notre église. Le fruit de votre générosité, je le vois dans la vie des gens que je rencontre qui me disent « ma vie est transformée ». Je vis un renouvellement, je vis une guérison. Mon mariage était mort, mais il reprend vie. Je vis une nouvelle vie. Et si vous m'avez vu déjà émotionnel sur le stage, je suis plus émotionnel que jamais lorsque j'entends lorsque je vois des vies donner leur vie à Jésus. Je vois des gens donner leur vie à Jésus. Je suis juste ému de voir ça. Juste joyeux de voir ça. Je suis joyeux de voir, on a parlé des baptêmes tout à l'heure, je suis joyeux de voir des gens passer par les eaux du baptême et qui déclarent aujourd'hui, je veux montrer à tout le monde que j'ai décidé de faire Jésus mon Seigneur et mon Sauveur durant toute ma vie. Si vous voulez me voir émotionnel, c'est dans ces moments-là où j'ai les larmes qui me montent naturellement parce que c'est le fruit de la générosité. C'est pour ça qu'on vit. Et si tu ne donnes pas ce matin ou si tu donnes peu ou alors si ça ne te fait rien, je t'invite juste à faire un pas de foi et commence à donner. Si tu veux goûter à cette joie-là, commence à donner. Et je te garantis que tu ne pourras plus rester insensible à des vies transformées, à ce fruit de justice, à ce fruit qui transforme les cœurs, à ces fruits que la générosité peut amener. Parce que ce ne sont pas des fruits qui sont temporaires, c'est des fruits qui sont éternels, qui ont une résonance et un écho pour l'éternité. La générosité, c'est un investissement, mais aussi, deuxièmement, la générosité, si on peut donner avec joie, c'est parce qu'elle est récompensée. Paul continue dans sa lettre à l'église de Corinthe. Il dit au chapitre 9, verset 8, « Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que vous possédiez toujours, à tout point de vue, de quoi satisfaire à tous vos besoins, et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. » Comme il est écrit, il a distribué ses bienfaits, il a donné aux pauvres, sa justice subsiste à toujours. Ce que Paul nous dit ici, c'est pas donne et Dieu va te faire prospérer, donne et Dieu va te faire prospérer en abondance, en gloire, en followers. C'est pas ça que Paul nous dit. C'est plutôt donne avec ce que tu as maintenant et Dieu va te donner davantage pour que tu puisses encore plus bénir ceux qui sont autour de toi. Parce que la Bible nous dit que celui qui est fidèle dans les petites choses, il lui en sera donné de plus grandes par la suite. Parce que Dieu a confiance dans sa fidélité. Dieu a confiance dans sa générosité. Alors commence même à donner avec ton peu pour que Dieu puisse te donner encore plus d'avantages, pour que tu puisses encore plus donner davantage et avoir encore plus de fruits. À l'ITF, à l'école de théologie où j'étais enseigné, il y a Pasteur Claude qui a donné des cours. Et notamment, il expliquait un jour dans un de ses cours qu'il y a des personnes qui sont venues le voir pour lui demander « C'est quoi la recette miracle de nouvelle vie ?» Qu'est-ce qui fait nouvelle vie, nouvelle vie ? On sait, il y a le jeûne et la prière, il y a clairement une faveur de Dieu, mais c'est quoi la recette miracle ? Et si vous connaissez un peu Pasteur Claude, vous connaissez sûrement ce verset sur lequel Nouvelle Vie est fondée, mais je vais vous le lire quand même. Il se trouve en Ésaïe, chapitre 58, verset 7. « Partage ton pain avec celui qui a faim. » Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il répondra, « Me voici. » Parce que Dieu récompense le cœur généreux. Sois fidèle dans ta générosité cette année. Et je te garantis une chose, ton année ne ressemblera en rien aux années que tu as pu vivre dans le passé. Et ma prière, vous le savez, pour chacun d'entre nous, pour cette Église, c'est qu'on puisse vivre en 2023 une année de renouvellement, une année de restauration, une année d'avancée, de maturité spirituelle, qu'on puisse encore plus grandir dans notre foi. Qu'on puisse être vraiment renouvelé suite à ces années de difficultés et d'épreuves qu'on a pu vivre à cause de la Covid. Mais pour vivre ça, ça passe par la générosité. Maintenant, attention, ça ne veut pas dire que si tu es généreux, tu n'auras plus de problèmes, tout va bien se passer, les cocktails sur les tropiques, ouh, génial. Ce n'est pas ça que ça veut dire. À Nouvelle Vie, on est généreux. Mais je peux vous garantir qu'on passe par des crises quasiment sans arrêt. Je suis généreux et les crises, j'en vis constamment aussi. Mais on garde la foi qu'en gardant cette main tendue de justice vers les autres, qu'en se fixant, en voulant aider les autres dans le besoin, on garde la foi qu'à un moment donné, Dieu entendra nos cris et il dira « Me voici, je vais te bénir, je vais t'aider à avancer, je vais te relever ». Et en plus de ça, je vais te combler pour que tu puisses continuer à bénir davantage ceux dans le besoin. Peu importe la situation économique du pays, commence à donner. Recommence à donner. Ose faire ce pas de foi-là, de générosité supplémentaire et vois comment Dieu va pouvoir bénir le reste de ton année, mais aussi de ta vie. Mon dernier point ce matin. Amen. Mon dernier point ce matin, pourquoi les Macédoniens étaient dans la joie de donner. Premièrement, parce que la générosité est un investissement. Deuxièmement, parce que la générosité est récompensée. Et enfin, c'est le point le plus essentiel pour moi. Le point qui m'anime d'une passion encore plus grande, c'est que la générosité nous fait ressembler à Jésus. Paul a dit à l'église de Corinthe, au chapitre 8 et au verset 9, « En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » Jésus a quitté le ciel de gloire, le ciel rempli d'une gloire, d'une richesse que même nos plus grandes imaginations ne pourraient jamais imaginer, concevoir ou même penser. Jésus a tout quitté, Jésus a tout abandonné parce qu'il est venu sur terre par générosité pour toi. Il a décidé de tout mettre de côté derrière par amour pour toi. Jésus, c'est Dieu le Fils qui s'est incarné, qui est devenu homme sur terre. Il a abandonné sa richesse, sa gloire pour se faire pauvre en venant sur terre. Et en marchant sur terre, il a vécu la vie parfaite qu'on est incapable de mener. Parce qu'on a tous nos défauts, on a tous nos imperfections, nos péchés, nos manquements. Mais lui était parfait en tout point. Jamais il n'a péché. Et s'il a été généreux pour ça, il a été encore d'autant plus généreux parce qu'il est mort à la croix pour nos fautes. Il est mort à la croix pour nos erreurs. Le sacrifice de Jésus à la croix est la plus grande preuve d'amour et de générosité que le monde n'ait jamais vue. Et nous sommes appelés à la générosité, comme Jésus a été généreux pour nous. Et Paul, à un moment donné, dans l'épître de Corinthiens, dans le chapitre 8, il dit « C'est pour ça que je ne vous ordonne pas de donner. C'est pour ça que je ne vous ordonne pas de donner. » Et j'aime ce que Timothy Keller, un grand théologien, a dit à ce propos-là. Il s'est interrogé, il a dit « Mais pourquoi Paul ne nous oblige pas alors de donner ?» Et en fait, Timothy Keller, dans sa réflexion, il disait, c'est comme si Paul disait, si vous savez ce que Jésus a fait pour vous, si vous connaissez l'avenir qu'il vous a assuré, alors vous voudrez faire cela, alors vous voudrez être généreux. C'est comme si Paul disait, si vous ne voulez pas le faire, si vous n'éprouvez pas de la joie à donner, je ne vais pas vous dire, faites-le quand même. Mais allez examiner vos fondations. Cherchez à savoir si Dieu est votre vendeur ou votre sauveur. Regardez si vous êtes en relation avec lui pour qu'il vous serve ou si vous êtes mis en relation pour le servir avec joie pour ce que son fils Jésus a fait. Sois généreux parce que Jésus a été généreux pour toi. Et peut-être que tu as 30 ans de vie chrétienne et que tu as oublié ce principe-là de la croix. La croix, ça fait plus d'écho. Au début, ça faisait un écho dans ta tête, dans ton esprit, dans ton cœur. Maintenant, la croix, on le chante tous les dimanches, c'est habituel. Ou peut-être que tu es nouveau ce matin, ou alors tu es nouveau dans ta foi, tu es nouveau, peut-être pour la première fois, tu viens à l'église. Puis la croix, c'est quelque chose de juste nébuleux, tu vois, juste un morceau de bois, puis that's it. Tu as du mal à comprendre tout ce que ça implique, la croix. Je vais juste faire une parenthèse dans mon message pour vous dire que la semaine prochaine dans les églises Nouvelle Vie, on va commencer une nouvelle série. Nous, on va la commencer dans 2 semaines parce que la semaine prochaine, on a le pasteur Emmanuel Hippolyte qui va venir nous visiter. Mais la nouvelle série dans laquelle on va rentrer prochainement s'intitule « Immuable, la croix pour aujourd'hui ». Et dans cette série-là, nous allons nous rappeler l'œuvre de la croix, ce qu'implique la croix dans nos vies. Ça va être un rappel pour certains, une découverte pour d'autres. Ça va peut-être être même le moment pour vous d'inviter des gens parce qu'on va parler de ce qui fait la fondation de notre foi, la croix. La croix. Si je suis généreux, c'est parce que Jésus a été généreux pour moi à la croix. Si tu ne sais pas pourquoi donner ce matin, laisse-moi juste te donner cet élément de réponse tellement simple, parce que Jésus est mort à la croix pour toi. Pour toi. Avant même que tu ne viennes au monde, Jésus t'avait vu et Jésus s'est dit, je veux mourir à la croix pour lui. Je veux mourir à la croix pour elle. Je veux porter ses fardeaux, ses péchés, ses fautes parce que je l'aime. Le socle, le fondement solide, inébranlable de toute générosité se trouve en Jésus. Et en Jésus seul. On ne donne pas parce qu'il faut donner. On ne donne pas pour avoir une petite tape dans le dos, bravo, t'as donné. On ne donne pas pour accumuler les miles au ciel. On ne donne pas non plus pour avoir un beau retour d'impôt. On le donne parce que Jésus a tout donné pour nous. Et parce qu'on veut lui ressembler. Parce que notre but, c'est de lui ressembler. Je cherche à aimer parce que Jésus m'a aimé. Je cherche à pardonner parce que Jésus m'a pardonné. Je cherche à lui plaire parce que Jésus m'a aimé avant même que je ne vienne au monde. Je veux lui ressembler parce qu'il a été, il est et il sera parfait. Je donne parce que Jésus m'a tout donné sans rien retenir. Je donne pas juste pour l'Église. Je donne pour le royaume. Je donne pour les fruits que ça porte. Les fruits de vie que ça porte. Et ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine d'investir, d'oser donner. Ça en vaut la peine. Ça va combler ton cœur. Tu vas être rempli d'une joie de donner, de voir les fruits que ça va émerger. Mais en plus de ça, si tu commences à donner, Dieu va aussi commencer à transformer ton cœur pour t'aider à ressembler encore plus à Jésus. Les fruits de justice que tu vas voir semer vont te développer, vont te former, vont te transformer à l'image de Jésus. Ça en vaut la peine. Peu importe la situation économique, n'aie pas peur de donner. Ta situation, ta sécurité ne doit pas être dans ce qu'il y a dans ton compte bancaire. Ta sécurité est en Jésus seul. Ta générosité fait la différence et peut faire la différence. Parce que la plus petite graine donnée entre les mains de Dieu peut porter un fruit de multiplication, un fruit magnifique, un fruit merveilleux. Ce matin, je nous appelle à faire la différence par notre générosité. Est-ce que vous voulez bien qu'on se lève ensemble ? On va conclure le message de ce matin. Je ne sais pas si tu l'as réalisé tout à l'heure dans le dernier verset que j'ai pu lire. L'apôtre Paul a dit ceci. Il a dit que Jésus s'est fait pauvre pour nous afin de nous enrichir. T'es riche ce matin. Je ne parle pas en fonction de ce qu'il y a sur ton compte bancaire, mais tu es riche spirituellement. Tu es riche de sa grâce. Tu es riche de son amour pour toi. Tu es riche pour son salut. Tu es riche pour le pardon. Tu es riche pour la compassion qu'il t'offre. Tu es riche pour la nouvelle vie qu'il veut te donner. Tu es riche pour l'esprit qui vit en nous. Tu es riche ce matin. Tu es riche ce matin. Et tu as un accès à tout ça. Et la générosité à laquelle Dieu nous appelle, c'est pour être des exemples de sa générosité. On a tellement reçu que Dieu nous appelle en retour à être des démonstrations vivantes de sa générosité. Alors n'attends pas ce matin d'avoir assez, d'avoir suffisamment, que la situation économique aille mieux. Ne te limite pas. Ne limite pas ce que tu peux donner à cause de ta peur de manquer. Parce qu'il ne te manquera pas. Tout appartient à Dieu. Si tu es fidèle, il sera fidèle en retour. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. C'est Dieu lui-même qui le dit. Ta générosité peut porter un fruit extraordinaire si tu oses à être généreux ce matin. Ta générosité peut faire la différence. Ce que les biens, si vous êtes à l'aise, levez les mains comme un abandon à Dieu, comme un moment d'abandon à Dieu. Et j'ai prié pour nous. Seigneur Jésus, on vient devant toi. On vient devant toi, Seigneur. Merci d'être ce Père bien-aimant. Merci, Jésus, pour qui tu es. Seigneur, on va te demander pardon. Pardon pour toutes les fois où on a manqué de confiance en toi. Où on a retenu au lieu de donner. Où on se fixe sur ce qu'on a sur le compte bancaire au lieu de se fixer vers toi. Pardon Jésus de manquer de générosité, de douter de toi. Pardon de regarder aux circonstances qui nous font oublier la générosité que tu as eue pour nous à la croix. Pardon Jésus pour nos cœurs qui ne pensent qu'à nous. Qui ne sont fixés que sur nous, que sur nos besoins. Et pas assez sur le besoin des autres. Pardon Seigneur. Je te prie Jésus que ton esprit vienne éveiller en chacun d'entre nous. Et moi le premier, que ton esprit vienne éveiller en chacun d'entre nous un cœur à la générosité. Que ton esprit vienne réveiller en chacun d'entre nous ce principe même que tu as tout donné pour nous. Éveille en nous une soif de vouloir semer. Éveille en nous une soif de vouloir d'être généreux. Éveille en nous une soif de vouloir voir des fruits. Des fruits éternels. Des fruits qui font la différence autour de nous. Éveille en nous la soif d'être généreux, s'il te plaît. Et Seigneur, utilise-nous. Utilise nos dons. Utilise nos faibles moyens. Utilise nos faibles ressources. Utilise-nous comme tu le veux, Seigneur. Nous sommes tes enfants. Nous voulons être généreux comme tu as été généreux à la croix. Rappelle-nous ce qu'implique la croix, ce qu'impliquait la croix, ce que signifie la croix. Rappelle-nous que toi, tu as tout donné pour nous enrichir. Rappelle-nous la richesse que nous avons en toi. Et Seigneur, comme le chant qu'on s'apprête à prendre à l'instant, Seigneur, on veut se rappeler que notre espérance ne se trouve pas dans ce qu'il y a dans notre compte, dans notre sac percé, mais que notre espérance se trouve en Jésus seul. Notre espérance se trouve seulement en toi. Ta justice, c'est notre assurance. On n'a pas d'autre assurance que ta justice. Tu es notre appui. Même si l'orage frappe, même si l'orage des crises financières frappe, même si l'orage des dettes frappe, tu es notre rocher. Tu es fidèle. Ranime notre courage. Que ta croix puisse ranimer notre courage d'oser ouvrir la main et d'être généreux. Jésus, sois notre rocher. On veut que notre confiance soit en ton amour. Jésus, rappelle-nous ça ce matin, s'il te plaît. Rappelle-le-nous que notre espérance se trouve nulle part ailleurs qu'en Christ seul. Merci, Père.